L'idée à lire, c'est avec Laurence, tous les deuxièmes vendredis de chaque mois, à 11h30 jusqu'à midi, je vous présente mes coups de cœur et des interviews de ceux qui font le livre à Bourg et ailleurs. Bonjour, pour cette nouvelle émission, je vais seulement vous parler d'un de mes coups de cœur, qui est un album sélectionné par la BDP pour le programme 1, 2, 3 albums, un album qui parle du lien intergénérationnel. Et ensuite, nous écouterons une interview avec Pierre, qui est libraire manga chez Cultura, donc dans le magasin de Bourg-en-Bresse. Mais tout d'abord, donc, ce coup de cœur sur les Robinsons de l'île Tromelin. C'est une histoire vraie, l'histoire vraie de Tim Yavo. Elle est racontée par Alexandrine Sivard-Racinet et Aline Bureau. Et donc, c'est l'histoire, en fait, de Tim Yavo qui a été embarqué clandestinement dans un navire avec 159 autres esclaves malgaches. Et une nuit, le bateau fait naufrage et les naufragés arrivent sur une île qui ne comporte que du sable blanc et des cailloux. C'est en 1761 et donc on a la vie finalement de ces naufragés. D'un côté, les blancs qui les ont fait monter clandestinement dans le bateau, et de l'autre, donc, les esclaves. Et puis, petit à petit, donc, la vie va s'organiser, les esclaves et les blancs vont s'entendre pour construire un navire, les blancs vont partir, laissant les esclaves, et donc, les esclaves oubliés vont apprendre à vivre sur cette île de nombreuses années avant qu'enfin on vienne les libérer. Je vais vous lire un passage donc de cet ouvrage. Donc c'est sur l'île de Sable, février 1762, et la mort s'acharne. Hier soir, le ciel nous est tombé sur la tête. En l'espace de quelques heures, nous avons perdu le peu que nous possédions. Tout a commencé par un bruit à peine perceptible. Deux gamelles se sont entrechoquées doucement, comme si elles avaient voulu nous prévenir d'un danger imminent. Sur le moment, personne n'y a prêté attention. Nous étions bien trop occupés à coincer des coquillages entre les rochers et à poser des récipients sur le sol pour recueillir l'eau de pluie. Hélas, cette fois, rien ne s'est déroulé comme d'habitude. Soudain, le vent a changé de direction et a redoublé de violence. La pluie s'est intensifiée et la mer a grondé. J'ai scruté le visage ruisselant de Mama et son air inquiet m'a tordu le ventre. C'est alors qu'une bourrasque s'est engouffrée à l'intérieur de la grande tente et l'a soufflée en une seconde. Une vague immense a ensuite déboulé, balayant tout sur son passage, le trépied de cuisson, les tonnelets vides, le bois pour le feu. Agrippés les uns aux autres, privés de repères, nous étions terrorisés. Il m'a semblé que ce cauchemar durait une éternité. Puis, aussi soudainement qu'il était arrivé, les vents mauvais s'en sont allés et la colère du ciel s'est apaisée. C'est un récit donc de la vie de ces naufragés qui est extrêmement prenant, les Robinsons de l'île Tromelin. Vous allez trouver à la fin de cet ouvrage un reportage photo sur ce que c'est que l'île Tromelin, puisque c'est une histoire vraie. C'est une île qui est encore française et on ne peut y aller que quand on organise vraiment son voyage avec les autorités françaises. Donc je vous conseille la lecture et j'ai appris donc un morceau de notre histoire grâce à ce livre, Les Robinsons de l'île Tromelin. Voilà, maintenant nous allons écouter une interview donc avec Pierre, le libraire de manga du magasin Cultura de Bourg-en-Bresse. Je vous laisse écouter cette interview extrêmement intéressante. Je me retrouve maintenant avec Pierre, donc qui est libraire au magasin Cultura de Bourg-en-Bresse et il est responsable de la section bande dessinée manga. Je voulais commencer mon interview avec toi, Pierre, pour savoir un petit peu ce qui t'avait amené à travailler à Cultura. Quel était ton cursus pour être responsable de rayon ici? Et puis, pourquoi la bande dessinée?
Alors, moi j'ai fait un BTS en alternance. Je me suis retrouvé dans un magasin, dans un hypermarché. J'étais responsable du rayon jeux vidéo. J'étais en Lozère, perdu dans la Pampa. Et ma femme a été mutée sur Bourg-en-Bresse. C'est alors que je l'ai suivie. À ce moment-là, était monté un magasin Cultura. J'ai postulé pour le rayon CD-DVD jeux vidéo, où j'ai été pris. On m'a proposé même des postes d'adjoint ou d'autres postes si j'étais mobile, ce qui n'était pas le cas. Donc on m'a proposé un boulot de vendeur. Et après, de fil en aiguille, j'ai passé 5 ans, j'avais fait mes armes et je commençais un peu à détester le métier de disquaire. Donc j'ai proposé à ce que je passe libraire et on a accepté volontiers. Et ça a été vraiment une révélation. La librairie est vraiment un endroit passionnant car j'ai des passions comme le jeu vidéo, la musique et la vidéo. Et on peut discuter de ça en librairie, mais pas que. Et c'est là où ça devient intéressant. Le champ des possibles est immense. Jardinage, BD, voilà. Et forcément, je suis rentré, il y avait un ami qui, lui, était libraire en BD. Et quand il est parti, je me suis proposé automatiquement parce que j'ai une grande appétence, ouais, pour la BD, voilà.
Tu as des auteurs en particulier, peut-être des auteurs qui ont marqué ton enfance, par rapport à la bande dessinée?
Non, j'ai aucun auteur. J'aime vraiment toute la BD en général. J'ai aucune affiliation avec un auteur en particulier dans le sens où ma curiosité, la BD s'est lancée plutôt dans le manga dans un premier temps. Et c'était dans les alentours de mes 15 ans où j'ai été traumatisé par, non, un peu plus tard, 18 ans, par des mangas comme Hunter x Hunter qui m'ont vraiment plu. Et après, de par ce fait, j'ai embrayé sur le manga que j'ai vraiment creusé. Et puis après, quand je suis rentré libraire, là, j'ai commencé à vraiment me passionner. Et je n'ai aucune. Voilà, je lis autant du comics que de la BD contemporaine, que de la BD franco-belge. J'ai aucune limite. Et voilà. Voilà. Mon auteur favori, si j'en ai un à donner, ce serait Marion Montaigne ou alors Manu Arsenet, qui sont deux auteurs que j'affectionne particulièrement.
D'accord, et que tu vas nous présenter donc tout à l'heure, quand tu vas nous présenter quelques titres, c'est ça?
Exactement. Dont ma BD préférée, Le Combat Ordinaire.
D'accord, très bien. Donc on en saura un peu plus tout à l'heure. Donc là, ça fait combien de temps que tu es chez Cultura?
Ça fait 10 ans.
D'accord. En tant que responsable de rayon, j'ai interviewé donc Marjolaine, qui est au rayon adulte, enfin roman adulte, et elle reçoit beaucoup d'auteurs, et je voulais savoir si toi, tu avais cette même possibilité-là de recevoir beaucoup d'auteurs ou enfin de scénaristes ou de dessinateurs de bandes dessinées.
Alors, pas beaucoup. Pourquoi? Parce que les auteurs de BD, pour certains, sont très loin en fait. Et il y a très peu d'auteurs de BD dans le coin. Et en général, les auteurs de BD demandent énormément, évidemment, que tout leur frais de déplacement soient payés et autres. Et Cultura n'a pas cette volonté de payer énormément d'auteurs qui sont très loin, car ça coûte de l'argent, ne serait-ce qu'en frais d'essence et aussi en frais les défraiements, voilà. Et au-delà, il y a beaucoup d'auteurs aussi qui refusent les Cultura. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une image de librairie spécialisée. Et en général, ils aiment bien les auteurs de BD être reçus dans des librairies qui sont spécialisées dans ce cas-là. Voilà.
Toi qui travailles un petit peu sur les deux rayons, j'ai l'impression, je te vois quand même souvent entre la bande dessinée et le roman. Tu as l'impression que si le roman a, enfin, moi j'ai l'impression que le roman a plus de difficultés à se vendre que la bande dessinée. Est-ce que c'est pour moi une, enfin, est-ce que je me trompe? Est-ce que finalement les gens viennent plus facilement à la bande dessinée et achètent peut-être plus facilement la bande dessinée maintenant que que les romans?
Alors, je pense qu'il y a il y a beaucoup de clients qui viennent dans les deux rayons. Seulement, quand un roman se lit en l'espace de un mois, on va dire une semaine pour certains, rares sont les personnes qui peuvent se permettre de lire un livre en 3 jours. Voilà. Une BD a plus. Ça dure moins de temps, quoi. C'est-à-dire que quand on lit une BD, on peut y passer 3 heures, la BD est finie et on a envie de savoir la suite. Donc la BD a ce pouvoir de faire en sorte que j'ai envie de lire toute la collection. Et surtout chez le manga, par exemple, où là, c'est une industrie au Japon qui est très florissante. Et ce n'est pas la même consommation en France. C'est-à-dire qu'en France, on ne va jamais jeter un manga. Tandis qu'au Japon, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que on va lire une partie du manga et on va jeter et on va racheter après, par la suite. Voilà. Alors que, donc, un manga, on va dire que franchement, en 3 heures, ça peut être lu. Et après, au-delà, on se dit, bon, ben, on a envie de lire la suite. Évidemment, quand on a des mangas qui ont une collection de 40 mangas, ben forcément, le manga va mieux se vendre qu'un livre qui, lui, va lire en 3 jours, un mois, voilà, selon la vitesse de lecture de chacun.
Oui, j'ai eu l'impression qu'il y avait manga et manga, et qu'il y en avait qui étaient plus, on va dire, entre guillemets, consommables que d'autres. C'est peut-être ceux-là dont tu parles qui sont jetés au Japon.
Exactement.
Ça ressemble à des petits ouvrages de poche.
Alors, c'est pas du tout ça, en fait. Enfin, c'est pas du tout ça. C'est pas ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'au Japon, il y a une prépublication. C'est-à-dire que nous, on reçoit le manga avec à l'intérieur 8 chapitres. Tandis qu'au Japon, c'est un chapitre par semaine qui sort. Donc, dans des sortes de, pas de manuels, mais de revues, justement,
d'accord,
qu'on achète,
oui,
comme le Shonen Jump. Voilà. Et donc, on va le lire et après, on va le jeter. Et des fois, quand le manga nous a vraiment plu, on va l'acheter comme en format français, à savoir relier les 8 chapitres. Mais voilà, ça, on avait essayé en France. Il y avait pas mal de magazines qui étaient sortis dans ce mouvement-là. Mais on n'a pas cette culture-là, donc ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut le produit qu'on va mettre dans sa bibliothèque. Au Japon, il n'y a pas cet effet-là. Voilà. Il y a, mais c'est vraiment minime comparé à la France. Voilà.
Je pense qu'en fait, on n'a plus cette culture-là. Parce qu'au 19e siècle, tous les livres de Balzac sortaient en feuilleton. Et finalement, c'est un peu ce même principe-là, sauf que ça se fait pour la bande dessinée. Donc, voilà, je pense qu'on n'a plus du tout cette culture-là, qu'on a envie d'avoir le livre en entier, parce que justement, on n'est plus dans un temps de la patience aussi.
Mais carrément, oui. Mais en France, il y a encore quelques, comme Rue de Sèvres, je pense, qui, eux, vont s'amuser à créer des chapitres aussi. Donc, par exemple, le Château des Étoiles, chaque tome a été prédécoupé en 3, et vous lisez ça comme un journal, c'est magnifique. Mais pareil, c'est l'aspect collectionneur qu'il n'y a pas forcément au Japon. Voilà. Donc, avec les Shonen Jump, personne ne va collectionner tous les Shonen Jump. Ça se fait, hein. En général, on a tendance à les jeter, et voilà. Un peu comme le métro, des choses comme ça, 20 minutes et autres.
D'accord, très bien. Donc pour moi, c'est ce que je me dis, ça ressemble plus à du consommable. C'est vrai que quand je vois mes élèves avoir des mangas dans les mains, ça ressemble plus à un petit ouvrage de poche. Et quand je le regarde, quand je l'ouvre, je suis pas séduite. Alors qu'il y a d'autres mangas qui, pour moi, me séduisent davantage. Enfin bon, je connais pas beaucoup, mais pour avoir lu Quartier lointain, je trouvais ça magnifique.
Ben oui, totalement. Mais de toute façon, Quartier lointain, c'est Jiro Taniguchi. Le feu, Jiro Taniguchi. Là, il écrit pour les Français, en fait.
Ouais.
Donc, c'est vraiment une autre dynamique. C'est vraiment pas du tout la même dynamique que les mangas, ce qu'on appelle shonen, seinen et shoujo, qui peuvent apparaître dans les magazines. Là, Jiro Taniguchi, je ne pense pas qu'il soit apparu dans aucun magazine sur ses derniers ouvrages. Les premiers, je pense, mais pas sur les derniers. C'est vraiment vrai pour le public européen. D'ailleurs, Quartier lointain a été écrit dans le sens littéraire français, occidentaux. Voilà.
D'accord. Tu viens de donner des mots, je suppose, japonais. Shoujo. Oui, je les ai vus en plus en rayon et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc-là?
En
fait?
Alors, on va dire qu'il y a plusieurs catégories au Japon. Il y en a beaucoup que je ne vais pas vous énumérer. Mais les trois principaux sont le shonen, qui sont des mangas typés en général garçons, mais ça peut très bien être mixte, hein, il n'y a aucun souci. Et là, en général, c'est l'archétype traditionnel du héros qui est balèze, qui va rencontrer un méchant qui est encore plus fort. Évidemment, il va se faire tâtonner la gueule au début, mais au fur et à mesure, il va progresser jusqu'à le surpasser, mais il va arriver un autre méchant encore plus fort et va le battre. Voilà, c'est sans fin, ça marche, c'est Dragon Ball pour le plus connu, Naruto ou One Piece. Voilà. On aura le deuxième type, c'est shoujo. Donc là, c'est plutôt typé pour les filles, voilà. Rares sont quand même les garçons qui lisent. C'est de la romance, c'est très fleur bleue, voilà. Il y a très peu de shoujo, voilà, qui sont mixtes. Il y en a,
c'est
mais
quoi,
c'est vraiment...
C'est du Jeanne et Serge.
Ouais, ouais, voilà, c'est du Jeanne et Serge sans le volet. Tu enlèves le volet et voilà. Mais voilà, c'est des histoires d'amour un peu impossible, un peu shakespearienne, sans l'aspect « je vais te tuer », enfin, voilà, il n'y a pas de poison à l'intérieur, voilà. Mais c'est toujours des histoires, voilà, très fleur bleue.
D'accord.
Et après, Seinen.
Du coup, là,
ouais,
ton shoujo, ça me motive pas du tout.
Je le vends très mal parce qu'il s'avère que j'en ai très, très peu lu, voire aucun.
Ouais.
Ceux que j'ai lus étaient vraiment, voilà, étaient vraiment mixtes. Il y en a certains qui le sont. Je pense à Orange ou alors des Skip Beat. Voilà, non, pas Skip Beat. Il y a un Switch Girl, voilà. Ça peut faire les deux. Voilà, il y a certains mangas qui sont comme ça. Et mais oui, c'est vrai que l'image que j'en ai, qu'on m'en dégage, c'est très fleur bleue. Et vu que je ne suis pas du tout fleur bleue, je suis plutôt envie de meurtre. Donc c'est pas moi. Mais voilà, non, je plaisante. Mais voilà, c'est pas ma cape. Ça, après, il y a Seinen. Et la Seinen, c'est adulte. Donc là, il y a deux types que je dégagerai du Seinen. C'est les mangas qui ont une thématique adulte, comme par exemple les gouttes de yeux avec le vin, des choses comme ceci, avec voilà l'œnologie qui apporte ça, voilà, c'est vraiment intéressant et passionnant pour les adultes et pour tout public, même les gens qui n'aiment pas justement le manga. Tu parlais de Jiro Taniguchi, le quartier lointain, c'est exactement ça. C'est vraiment n'importe quel public, même qui déteste le manga. Adulte, je peux lui faire lire ça, il n'y a aucun souci, il en redemande.
D'accord.
Voilà. Et après, il y a le côté un peu trash, voilà. Ça, c'est l'aspect problématique avec certains Japonais qui sont la génération un peu sacrifiée, les postes Fukushima. Ouais, c'est ça, c'est... Non, Nagasaki et Fukushima.
Oui, d'accord, Hiroshima.
Voilà, Hiroshima. Et donc, eux ont vraiment été traumatisés et ils font vraiment ressentir. Donc, la plus grande BD qui est connue, c'est Akira. Voilà, où c'est vraiment très, très post-apocalyptique, où personne ne va survivre. L'homme est un loup pour l'homme. Voilà, c'est vraiment ça. Voilà, par exemple, j'ai ramené un manga, Ajin, que je conseille, qui est vraiment, voilà. Et c'est ce côté où, par exemple, Ajin, ça parle d'immortel. On ne sait qu'on est immortel que quand on vient à mourir. Et le problème, c'est qu'il y en a à peu près 40 qui ont été déclarés au Japon. Et ça va créer, quelque part, un malaise dans les Japonais, où ils vont commencer à vouloir dénoncer ces gens. Et le gouvernement va récupérer ces Ajin pour savoir quelle est leur limite. Forcément, vu qu'ils sont immortels, ils essayent par tous les moyens de les tuer. C'est assez horrible, c'est assez bon. Et donc forcément, ceux qui arrivent à en survivre deviennent un peu psychopathes, dont le méchant qui est le meilleur méchant de tous les temps en manga pour moi, et qui a un sourire énigmatique, on ne sait pas ce qu'il veut, comme dans Monster. Et ils deviennent voilà, des tueurs en série. Mais c'est très très bien foutu. Ajin, c'est un de mes mangas préférés.
Moi, tu vois, quand tu commences à me raconter l'histoire, ça me fait penser aux X-Men.
Alors, là où les comics dits traditionnels, parce que pareil, il y a d'autres comics, hein, voilà, comme Marvel ou DC Comics, ça sera très poli. C'est-à-dire que vous ne verrez jamais, je sais pas, je vais dire les bêtises, mais Batman commençait à tuer du monde. Enfin, quoi que si, c'est le cas d'un certain Frank Miller. Non, mais voilà, vous ne verrez pas trop de noirceur, ça sera très arrondi et tout ça. Tandis que le seinen va beaucoup, beaucoup plus loin. Mais il y a des seinen que je n'arrive pas à lire, je n'arrive pas à finir tellement que c'est trash.
Et donc, tu nous as apporté d'autres ouvrages. Je vais te laisser les présenter.
Alors là, quelques coups de cœur de ces derniers temps. « Ces jours qui disparaissent ». De Timothée Le Boucher. Donc il a failli avoir un prix Cultura d'ailleurs lors de Angoulême. Ce que je lui aurais souhaité, c'est sa seconde ou troisième BD, mais c'est vraiment sa première BD qui est connue. Et ça a parlé d'un adolescent qui un jour tombe, se fait mal sur la tête, et le souci c'est que le lendemain quand il va se réveiller, son patron va lui dire t'étais où hier? j'étais là, patron, j'étais en train de travailler, tout ça, comme tous les jours. Il fait, ah non, t'étais pas là, on t'a cherché de partout, on t'a envoyé des messages, t'as pas répondu. Donc le gars était estomaqué, et il se pose des questions, et en fait, il s'aperçoit qu'il a perdu un jour de sa vie. Et le lendemain, exactement pareil. Et en fait, un jour sur deux, quelqu'un d'autre va prendre sa place. Donc au début, il va commencer à prendre contact avec lui par vidéo interposée pour savoir qui il est, parce qu'il s'aperçoit qu'il vit encore à sa place. Et lui va dire, écoute, je te concède, je suis un usurpateur, je ne connais rien de ma vie avant ce jour-là, seulement il va falloir qu'on vive ensemble parce qu'on n'a pas le choix. Et en fait, petit à petit, va s'instaurer un dialogue. Et ce qui est sympa, c'est qu'on ne voit que son réveil à lui. Donc on ne voit pas la vie de l'autre. Mmh. Et le problème, c'est que ces ellipses vont durer de plus en plus... Elles vont être de plus en plus longues. Ça veut dire que, par exemple, on se réveille un mois après, un an après, 3 ans après, avec un gamin qu'on ne connaît pas, et qui est le sien, mais sans être le sien. Passionnant, une BD sur le temps qui passe, vraiment intrigante, bien faite. La fin est vraiment bien, le texte est maîtrisé du début jusqu'à la fin. Une découverte, c'est un jeune auteur en plus, je crois qu'il a 26 ans. C'est vraiment impressionnant.
Donc Timothée Le Boucher.
Ouais, Ces jours qui disparaissent.
D'accord.
Voilà, aux éditions Glénat.
Très bien.
Ouais. Voilà. Là, après, j'ai apporté la BD qui, pour moi, est la meilleure de mon rayon, à savoir Le Combat Ordinaire, de Manu Arsenet. Donc, il y a 4 tomes. C'est l'histoire d'un trentenaire qui a des crises d'angoisse. Et voilà, il n'y a pas forcément de finalité, seulement, voilà, c'est un reportage de guerre à la base, qui fait des photos un peu de voilà sur ce qui se passe sur le terrain du genre en Syrie, seulement qu'il est dégoûté de la nature humaine et il décide de repartir dans son village natal pour prendre des photos de son village beaucoup plus voilà terre à terre, mais très 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 sympa. Ça parle, c'est vraiment un pot-pourri d'énormément d'idées de sur le temps qui passe, sur il parle du FN, il parle d'énormément de choses, et ça nous aide, voilà, il n'y a aucun jugement, c'est ça qui est fort, parce que justement, il va rencontrer des gens qui, eux, votent FN, lui, en tant que bourgeois, ne comprend pas, et n'imagine pas que quelqu'un peut voter FN, mais voilà, il n'y a aucun jugement, c'est magnifique. Manu Arsenet, Le Combat Ordinaire, 4 tomes.
D'accord, voilà. Très bien.
Après,
ça, c'est intéressant, oui. Parce que quand il y a un tome, on reste quelquefois un peu sur sa fin, on n'aimerait pas quitter les héros, et là, du coup, il y en a 4.
Exactement. Mais surtout, surtout, ce qui est intéressant, c'est que justement, il ne va pas au-delà de 4. Des fois, des auteurs ont tendance, quand ça marche, à forcer. Là, cette BD est assez vieille, hein. Je crois que je l'ai lue quand j'étais tout gamin. Enfin, j'étais jeune, mais je n'irais pas tout gamin. Mais voilà, ça doit durer dans les années 2000.
Ouais, voilà. Et ce qui 2003. Est amusant, c'est que ça pourrait être édité
hier,
quoi.
Ouais, il y a pas de souci. Après, c'est vrai. Non, mais c'est totalement ça, parce qu'il parle des élections, et c'est exactement ce qui s'est passé aux dernières élections, donc c'est marrant. Alors que ça a été édité en 2003, vous voyez, en 2015, je crois que c'est ça. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé, donc c'est très, très, très puissant. Le Combat Ordinaire, je conseille.
Mm-hmm. Très bien.
Voilà. Après, donc Les Vieux Fourneaux, ça c'est vraiment une série qui marche, qui cartonne. C'est vraiment une série que je conseille. Quelqu'un me dit, j'aime pas la BD, je lui donne Les Vieux Fourneaux, et il est obligé d'aimer. C'est très drôle, ça parle de la génération qui était juste avant nous. Et donc c'est Les Vieux Fourneaux. Et la première BD, par exemple, c'est l'histoire d'un vieux, sa femme vient de mourir. Et il reçoit du notaire une lettre qui lui dit que sa femme l'a trompé il y a 30 ans avec son patron. Seulement, lui, c'est un anarchiste de première. Il déteste son patron, donc il décide de partir. Il prend son trombone qui est au-dessus de sa cheminée, il décide d'en dessouder avec son patron. Et le patron a perdu la tête depuis belle lurette, donc il a tout oublié. C'est très marrant, road trip avec des vieux, mais des vieux rock'n'roll. Ouais.
Ok, voilà. D'accord.
C'est du rock. Voilà. Et puis voilà, le dernier, c'est Dans la combi de Thomas Pesquet, de Marion Montaigne. C'est plutôt de l'œuvre de Marion Montaigne que je voulais parler, à savoir ce qu'elle a fait, Tu mourras moins bête. Donc c'est parti. Maintenant, d'ailleurs, c'est un film d'animation sur France 5, vraiment excellent aussi. C'est une très très bonne série où en fait elle fait de la vulgarisation scientifique Donc en général, elle part sur des sujets, mais complètement à l'ouest. Et elle en fait une thématique du genre le coït animal. Donc elle prend les pires coïts du genre...
Du règne animal.
Ah voilà, du genre du règne animal. Voilà, par exemple, le monde de Nemo. Comment ça serait réellement passé? Prenez, par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, au tout début, il y a un esturgeon qui passe, qui bouffe tous les œufs, sauf un, Nemo, il bouffe aussi la mère, donc il y a le père, Nemo qui se retrouve seul. Et dans la vraie vie, les poissons clowns, si un mâle dominant, si une femelle vient à mourir et qu'il n'y a que des mâles, le mâle dominant va grossir et devenir la femelle, et donc le mâle dominant devient notre ami Nemo, qui va se taper son père qui est devenu sa mère. Mais bizarrement, Pixar n'a pas voulu ce scénario. Il n'a pas aimé.
Oui. On comprend peut-être un peu pourquoi. Tout d'un coup, ça fait moins
rêver. Ça fait tâche. Exactement.
Ouais, voilà.
Mais c'est, ouais, voilà, c'est très drôle. C'est une dame qui a un cynisme, mais à tous les niveaux, et qui met vraiment passe tout vitriol. Et moi, ça me fait vraiment, vraiment rire. Voilà. Et le dernier, donc Thomas Pesquet, dans la comédie de Thomas Pesquet, elle va s'attaquer au mythe de l'astronaute et elle va le dessouder, elle va déboulonner tous les astronautes et c'est pas si rêvé que ça leur métier et c'est exceptionnel la manière dont. Voilà. C'est-à-dire qu'on pense tout savoir sur les astronautes parce qu'on les voit souriants, beaux gosses et tout ça à la télévision, mais elle arrive à encore à nous surprendre et à sortir des trucs où on se dit oh, les pauvres. Franchement, les pauvres. Voilà. Mais vraiment intéressant.
Bon, bah écoute, en tout cas, je te remercie pour ta sélection. J'avoue que j'aimerais bien découvrir l'atmosphère, tout ce qui se dégage finalement de Mario Montaigne. Et je te remercie du temps que tu nous as accordé pour cette interview. Et c'est de belles idées lecture donc, pour nos auditeurs de Radio B. Donc je te remercie. Et puis je te dis à bientôt dans les rayons de Cultura.
Je remercie Pierre pour tout le temps qu'il nous a accordé pour cette interview où il a donné de très bons titres que j'ai pu apprécier par la suite. Et puis, je vous dis donc au mois prochain pour une sélection vraiment jeunesse puisque ce sera la sélection du mois de juillet. Et je vous souhaite une bonne journée sur nos ondes avec Idées à lire et plein d'autres émissions. Retrouvez toutes les émissions d'Idées à lire en podcast sur le site de Radio B, radio-b.fr.